Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Zinzinex et vous écoutez l'émission Mare Nostrum. Aujourd'hui, c'est le 31e numéro de notre émission avec Fabrice à la technique et au micro Raymond qui assure la préparation et la présentation de cette émission. Aujourd'hui, pour ce 31e numéro, nous allons parler de l'alcool comme d'un élément important dans la colonisation de la Tunisie par la France. Et pour évoquer ce thème, nous recevons donc Nessine Znaïen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc docteur en histoire contemporaine, bien sûr. Vous enseignez à Aix-Marseille Université, au laboratoire TELEM. Alors je rappelle que TELEM, c'est temps, espace, langage, Europe méridionale et Méditerranée. Ce laboratoire qui fait partie de la MMSH, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, au sein d'Aix-Marseille Université. Et je rappelle que nous sommes partenaires d'Aix-Marseille Université et de la MMSH. Alors donc le thème que nous allons évoquer constitue le sujet de votre thèse. Vous êtes donc spécialiste de l'histoire de l'Afrique du Nord, en particulier donc au 19e et au 20e siècle. Et vous avez travaillé sur la culture matérielle, l'alimentation et le vin en contexte de colonisation. Et c'est d'ailleurs dans cette voie, en particulier dans l'alimentation, que vous allez continuer à travailler. Et donc élargir un petit peu le sujet de votre thèse. Alors on peut quand même dire que votre thèse va être bientôt publiée, on va dire d'ici la fin de l'année, aux éditions Cartala, en relation avec IRMC, qui est donc l'Institut de recherche du monde...
Sur le Maghreb contemporain.
Sur le Maghreb contemporain, merci. Donc ce sera édité et publié d'ici la fin de l'année. Et le titre sera donc...
Je pense que ça sera le titre de ma thèse, qui était « Les raisins de la domination, histoire sociale de l'alcool en Tunisie sous le protectorat ».
Eh bien voilà. Donc, chers auditeurs, vous savez tout. Attendez donc la publication.
Dans toutes les bonnes librairies.
Dans toutes les bonnes librairies. Et puis, pour la fin de l'année, au mois de décembre, eh bien voilà, allez voir votre libraire et vous lui réclamez ardemment cette publication. Alors, pour cet entretien, donc, on va peut-être commencer comme on reçoit des chercheurs. Il faut quand même parler un petit peu de la recherche en elle-même. Alors, le point sur cette recherche, qui est maintenant bien évidemment terminée, vous avez connu des problèmes, peut-être des difficultés, vous êtes engagé sur certaines voies, donc on va essayer d'éclairer un petit peu tout ça pour nos auditeurs. Alors, j'ai lu, en tout cas, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, j'ai lu donc dans votre thèse que vous aviez cherché donc à rééquilibrer l'historiographie du Maghreb, et en particulier de la Tunisie. Alors, expliquez-nous un petit peu en quoi il s'agit donc d'un rééquilibrage de l'historiographie, ce travail sur l'alcool.
Bon, sur déjà le terrain en particulier, il faut quand même savoir qu'en France, il y a une relative obsession de la colonisation en Algérie. Parce que ça, c'est vrai que ça a duré 130 ans, parce que c'est une colonie de peuplement. Mais il y a, je voudrais pas dire... de bêtises, mais en termes de proportion, il y a bien 70% des thèses qui travaillent sur l'Afrique du Nord, qui sont sur l'Algérie. Et en comparaison, la Tunisie et le Maroc, où il se passe pourtant quand même des phénomènes assez intéressants, sont quand même assez peu traités. Donc, c'était une idée pour moi de travailler sur un autre espace que l'Algérie pour ça. Et par ailleurs, lorsqu'on traite de l'Afrique du Nord sous la colonisation, mais pas seulement d'ailleurs, sur la période aussi postérieure à la colonisation, on pense beaucoup aux politiques. Et il y a quand même toute une historiographie sur, en lien avec la montée du mouvement national, des résistances à la colonisation ou de l'administration dans les colonies, qui tourne autour... de la façon dont on administre ou de la façon dont on résiste à la colonisation, et pas tellement autour de la vie quotidienne, la culture matérielle, etc. Et ce sont des thèmes qui sont en train d'émerger, mais dans lesquels j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice.
D'accord, donc c'est une peu une contribution à l'histoire de l'alimentation, l'histoire de la culture même, hein, dans la mesure où il y a un choc culturel qui se produit au moment de la colonisation, voir un petit peu comment ce choc est vécu et comment il évolue et quelle est son importance. Et également dans votre introduction à votre thèse, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que sur votre sujet, ce qui vous intéressait aussi, c'était de travailler sur les classes populaires. Et non pas sur les élites. Et donc, il s'agit d'un intérêt donc, pour Jean Montès qui laisse généralement peu de traces dans l'histoire.
C'est effectivement tout le problème. C'est que les archives sont quand même globalement écrites par des élites, pour des élites. Bon, en fait, moi, je me suis posé une question préalable. Enfin, la question, en tout cas, que je me pose finalement depuis même mon master 1, depuis le début de mes études, c'est est-ce que la colonisation, ça change la vie quotidienne des gens ? Et c'est une question qui est faussement naïve ou difficile finalement à répondre. Et derrière ça, il y a peut-être une question un peu plus subtile, c'est est-ce que les changements qu'on constate dans un territoire colonisé donné sont dus à la colonisation ou pas ? Et est-ce que c'est des changements qui ont lieu aussi, par exemple, en Europe ou ailleurs dans le monde ? Quelle est la variable coloniale des changements, finalement ? Et pour ça, et pour étudier du coup autre chose qu'un faible nombre de personnes autour d'un palais présidentiel, je voulais étudier la vie quotidienne. Et derrière la vie quotidienne, y a l'alimentation, il y a les vêtements, il y a la façon dont on se loge, il y a également la façon dont on se lave, par exemple. J'aurais très bien pu faire une thèse sur les frigos, par exemple. Je trouve ça très intéressant, les frigos. Les voitures. La façon dont le savon, par exemple, est diffusé, etc. J'ai choisi l'alimentation, parce qu'il y avait pas mal de sources. Et puis, parce que c'est quand même quelque chose de très structurel, très politique aussi, l'alimentation. C'est quand même un besoin premier. Et donc, j'ai fait une thèse sur l'alcool. Dans cette idée-là, je voulais pas travailler sur l'alcool parce que c'est un produit qui pourrait être associé à quelque chose de contestataire, par exemple, dans une société. Je voulais travailler sur l'alcool parce que c'est un produit de la vie quotidienne.
Oui, et d'ailleurs, ce que vous m'avez dit quand on s'est contacté, là, c'est que vous étiez en train d'élargir, on en parlera peut-être un peu plus tard, d'élargir vos considérations et donc de faire des comparaisons justement entre les régions colonisées et puis les régions métropolitaines. Peut-être comme ça qu'on peut les appeler, justement pour voir la différence et l'impact de la colonisation sur ce quotidien.
Moi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, c'est-à-dire que ce que j'ai observé pour ma thèse, c'est qu'il y a quand même, souvent, quand il y a une vague de prohibition en Tunisie, en fait, il y en a une qui existe de la même façon, alors sous des formes différentes, mais en France. Et parfois même aussi dans le monde. Par exemple, dans les années 20, c'est sûr qu'on réprime beaucoup plus l'alcool en Tunisie. Mais est-ce que c'est dû à la colonie ou est-ce que c'est dû au contexte mondial, par exemple, l'ancêtre de l'ONU, qui est l'ASDN, qui réprime l'alcoolisme, qui souhaite qu'on réprime l'alcoolisme, ou les États-Unis à l'époque de la prohibition ? Et il y a quelque chose, moi, qui m'a passionné, que j'ai découvert plutôt sur le tard, c'est que les gouverneurs généraux de la Tunisie, les gens qui sont nommés par la France pour diriger la Tunisie, moi, je pensais que c'était des diplomates, des gens qui avaient fait l'école qui va bien au Quai d'Orsay et qui étaient envoyés dans les colonies. Eh bien, pas du tout. Dans la moitié des cas, au moins la moitié des cas, c'est des gens qui ont roulé leur bosse de préfet pendant 30 ans, qui ont été préfet de la Sarthe, préfet du Rhône, préfet du Pas-de-Calais, et qui, en récompense de fin de carrière, sont envoyés dans les colonies. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'une fois qu'ils sont envoyés dans les colonies, ils gèrent les colonisés comme ils géraient les ouvriers ou les paysans ? Et derrière cette question-là, du coup, ça nécessite de se pencher aussi sur ce qu'on fait en Europe et sur les parallèles entre l'Afrique du Nord et l'Europe.
Oui, c'est curieux d'ailleurs ce choix des responsables, un peu comme une prébande de terminale de la carrière, quoi. Hein, voilà, donc on les met là pour profiter du soleil.
Le soleil et puis le tiers colonial. Hein. À mon avis, c'est pas le même salaire.
Oui,
non plus,
oui, c'est ça.
Quand on est préfet ou quand on est gouverneur général de la Tunisie.
Est-ce que pour terminer sur ce problème donc d'approche de la recherche, est-ce que le fait fait que ce soit un pays musulman, ça a posé problème de travailler sur l'alcool?
Bon, non. Alors, c'est une question qu'on m'a souvent posée.
Oui, je suppose.
Mais, le 90% ou 80% des gens à qui j'ai parlé de ma recherche avaient un sourire en coin et étaient prêts à me confier leurs anecdotes. Alors, pas forcément eux, mais de gens qui connaissent. Mais en plus, la Tunisie, c'est un cas particulier parce que ça fait consensus. Je ne sais pas d'ailleurs à quel point c'est quelque chose de construit. C'est quelque chose de construit, mais ça fait consensus qu'il y a beaucoup d'alcool qui circule en Tunisie. Et c'est vrai que globalement, actuellement, j'ai vécu 3 ans à Tunis, quand on va à Tunis, c'est pas très difficile de tomber le soir sur un homme complètement ivre. C'est plus difficile quand même en Tunisie qu'en Algérie, par exemple. Enfin, l'alcool est quand même beaucoup plus consommé de manière ouverte dans certains quartiers de Tunisie qu'en Algérie. Non, il y a juste une ou deux personnes qui effectivement étaient plus méfiantes, mais c'est pas du tout un sujet sur les services secrets, sur la torture, la police. Non, ça pose pas de problème.
Oui, c'est pas plus qu'ailleurs, quoi.
Non, pas plus qu'ailleurs. J'ai pas été frappé.
Ouais, ouais.
Non, parce que la réalité du terrain est aussi une réalité où quand c'est pas de l'alcool qui vient d'Europe, il y a quand même historiquement une production d'alcool locaux en Tunisie. Et donc, fait partie de la culture. Enfin, le vin de palme fermenté, c'est alcoolisé. Alors, on peut appeler ça plus ou moins alcool, mais de fait, tout le monde reconnaît qu'on boit des boissons enivrantes depuis longtemps et de manière culturelle, c'est-à-dire de manière régulière, associée à une identité de groupe, etc.
Donc, donc c'est pas un problème essentiel de votre recherche. On va faire une petite pause musicale avec Claude Nougaro. Bien sûr, on pouvait pas le rater.
Je suis sous ton balcon, comme Roméo. Oh, oh, Marie-Christine, je reviens comme l'assassin sur les lieux de son crime. Mais notre amour n'est pas mort, hein? Dis-moi que non. On s'est quitté, je te jure que j'ai bien changé. Tu ne me reconnaîtrais plus. Et d'abord, je ne bois plus. Je suis rond, 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 rongé de remords. Je suis un salaud. Oh, oh, Marie-Christine, je t'en prie. Encore une fois, montre-toi magnanime. Donne-moi une chance encore, dis, recommençons. En moi, il y a du bon aussi. Ne me fais pas plus noir que je suis. Je suis bourré, bourré, bourré de bonnes intentions. J'ai trouvé du boulot. J'ai balancé mon dictionnaire de rimes. Je n'écris plus de chansons. Non, je travaille pour de bon. Mes copains que tu n'aimais pas, maintenant ils rigolent sans moi. D'ailleurs, je te les ai amenés. Tu n'as qu'à leur demander. On est sous, sous, sous. Comme Roméo. Oh, 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 Marie-Christine, ne fais pas la sourde oreille à ce cri unanime.
Ouais.
Je t'en supplie, mon trésor, réponds. Marie-Christine, ne me laisse pas seul.
Ne me laisse pas seul.
Bon, puisque c'est ça, je vais me saouler la gueule.
Bien. bien, donc nous sommes avec Nessim Zayen et nous sommes en train de parler de l'alcool en Tunisie pendant la période coloniale.
Tout en buvant du café, d'ailleurs.
Tout en buvant du café, voilà. On a évité la bouteille de vin parce qu'après, on saurait plus
on
trop.
On a 45 minutes à parler, quand même.
Oui, quand même, quoi. Il faut tenir la longueur. Et donc, nous avons donc évoqué un petit peu les problèmes de la recherche et nous avions donc commencé, nous avons poursuivre sur... Quelle est la part de l'alcool ou des alcools avant la colonisation et comment ça évolue à partir de la colonisation ? Parce que là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Alors, avant la colonisation, est-ce que la Tunisie est connue pour sa production, sa consommation ? Est-ce que l'alcool fait partie du quotidien en Tunisie avant la colonisation ?
Bon, il y a quelque chose de connu, c'est-à-dire que sous l'Empire romain, la Tunisie, c'est une vraie terre de vin. Et d'ailleurs, les colonisateurs ne manquent pas de le rappeler au XIXe siècle, parce qu'ils disent, bah voilà, nous on fait rien de mieux que l'Empire romain, finalement. Enfin, rien de différent de l'Empire romain, donc c'est tout à fait justifié que nous sommes là, et nous sommes là pour cultiver la terre. Et puis ensuite, bon, parmi les siècles qui séparent l'Empire romain du XIXe siècle, la réalité, c'est quand même qu'il y a une chute de la production de vin, de vignes, ce que d'ailleurs aussi les colonisateurs ne manquent pas de rappeler en disant, vous voyez, ils sont même pas foutus de cultiver la terre, et ça montre bien que le désert, finalement, est un symbole de la faiblesse de civilisation arabo-musulmane. Mais malgré tout, il y a des constatations dans toutes les sources médiévales et modernes de chefs locaux qui font cultiver de certains types d'alcool. Et ce que l'on peut observer, c'est qu'à partir du 19e siècle, notamment du milieu du 19e siècle, il y a une recrudescence de la présence d'alcool en Tunisie, une recrudescence de l'ivresse publique. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on boit plus, ça veut dire aussi que c'est plus perçu par les autorités comme un problème. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui précède la colonisation. Il y a certains témoignages, par exemple, pour ceux qui connaissent Tunis, au centre de la Médina, il y a une grande mosquée qui est très très célèbre, qui est un centre culturel et intellectuel très célèbre dans l'histoire de l'islam, qui est la mosquée Jamara Zitouna. La Zitouna. Et autour de la Zitouna, dans les années 1850, il paraît qu'il y a énormément de bars et donc de gens qui en ressortent ivres, ce qui pose certains problèmes aux autorités. Et par ailleurs, il y a des gens qui, notamment des Anglais, qui cultivent de la vigne du côté de Bizerte, par exemple, avant la colonisation, pour pouvoir aussi fournir en alcool les ressortissants européens, parce qu'il y en a beaucoup, des gens qui dépendent plus ou moins des consuls, etc., à Tunis.
Oui, et puis il y a une forte présence d'Italiens aussi.
Il y a une forte présence d'Italiens, une immigration économique à partir du 19e siècle, qui s'accentue au milieu du 19e siècle et qui va pas tarir. Hein. Vous savez que en Tunisie, officiellement, d'après les sources françaises, qui auraient tout intérêt à baisser le nombre d'Italiens, le nombre de Français dépasse le nombre d'Italiens seulement dans les années 1930. Ça veut dire que pendant tout le 19e siècle et les 30 premières années du 20e siècle, il y a plus d'Italiens que de Français en Tunisie.
Oui, d'ailleurs, avant la colonisation française, la Tunisie a été revendiquée, bien sûr, par l'Italie.
Oui, tout à fait. Bah, c'est un conflit diplomatique majeur entre les deux pays.
Oui, absolument. Alors donc, la colonisation va apporter donc un renforcement, une augmentation, un renforcement de la culture de la vigne et donc une augmentation de la production de vin en particulier.
Ouais, bah, en fait, le point de départ mais qui ne concerne pas la colonisation, c'est à la fin du 19e siècle, il y a une maladie qui touche les vignes du sud de la France, qui s'appelle le phylloxéra. Le phylloxéra, c'est un puceron qui pique les vignes, qui meurt dans les 3 ans en général. Et cette maladie, qui vient des États-Unis, provoque l'arrachage à peu près d'un tiers des vignes du sud de la France. Ce qui est une catastrophe économique pour certaines régions. Et par ailleurs, j'allais dire une catastrophe morale, c'est-à-dire qu'on n'a plus de vin. Et donc, les Français qui ont déjà colonisé l'Algérie envoient des paysans en Algérie pour cultiver de la vigne, pour pouvoir l'envoyer en France, et on fait la même chose en Tunisie. Et donc, et en fait, ça arrive au même moment où on colonise la Tunisie. Donc, pendant quelques décennies, On s'intéresse à la culture de la vigne en Tunisie uniquement pour pouvoir l'envoyer en France.
Pour pallier donc au...
Pour pallier
la crise du
phylloxéra en France. Mais bon, ça dure que le temps de la crise. C'est-à-dire que à partir du début du XXe siècle, bah ça y est, on a déjà replanté des vignes en France. Et il y a forcément un conflit. Un conflit entre les viticulteurs présents en Tunisie et les viticulteurs du sud de la France, qui va aboutir d'ailleurs aux plus grandes manifestations de la Troisième République. 1907, les manifestations de Béziers et de Montpellier sont les plus grandes manifestations de l'époque, en particulier en raison de cette concurrence entre les viticulteurs nord-africains, enfin du nord de l'Afrique, et les viticulteurs du sud de l'Europe.
Oui, et c'est vrai que... Il y a une peur des viticulteurs du sud de la France par rapport à la viticulture du Maghreb dès ce moment-là. Il y a quelques semaines, j'avais à votre place quelqu'un qui a travaillé sur le vignoble provençal et qui évoquait déjà cette peur d'être submergé par les productions du Maghreb.
Oui, et du coup, ça construit aussi la représentation qu'on a d'être envahi par ceux qui viennent du Maghreb, etc., qu'on peut avoir à l'époque. Et c'est quelque chose, notamment, qui est particulièrement construit pour le cas de la Tunisie. Parce que les viticulteurs en Tunisie ont un peu moins de puissance, de moyens de se défendre qu'en Algérie, par exemple. Et donc, du coup, pour certains hommes politiques, par exemple, c'est le coupable idéal, la Tunisie. Donc, c'est celui qu'on va pouvoir attaquer sans non plus prendre énormément de risques. Alors que, en vrai, en termes de proportion de vin dans l'Empire français, la Tunisie, c'est peanuts, hein, c'est pas grand-chose. Mais pourtant, il y a notamment un député français qui s'appelle Édouard Barthe, bref, qui a dit plusieurs fois à l'Assemblée nationale à quel point on est envahi par le vin tunisien, qu'il faudrait cesser ça, alors que ça correspond pas du tout à la réalité.
Oui, comme quoi, hein, quelquefois, j'aime pas trop dire ça, mais quelquefois, les choses se répètent. Et j'aime pas trop dire ça, parce que c'est pas tout à fait vrai. Et donc, cette économie du vin qui est en train de se mettre en place, vous dites que ça va alimenter les armées en garnison dans la colonie. Et alors, ce qui est curieux aussi, c'est la place de l'Église dans cette production viticole.
Oui, parce que bon, les gens d'église ont besoin de vin pour célébrer la messe. Et puis la Tunisie, pour l'Église catholique, c'est quand même un endroit important. Il y a eu quand même 4 papes qui ont été tunisiens. Saint Augustin, il est tunisien, c'est quand même une figure importante de l'Église. Saint Louis, qui est quand même une figure importante, il est mort à Tunis. Et donc, du coup, la colonisation viticole de la part des gens de l'Église est un moyen de prendre la revanche aussi du christianisme dans cette région-là. Et l'une des premières choses qu'ils font, c'est planter des vignes sur les hauteurs de Carthage, où Saint-Louis serait mort, pour symboliser aussi la présence coloniale et la présence de l'Église dans cette région.
Oui, donc finalement, il y a, à vous entendre, il y a une place importante du symbole dans cette implantation de la vigne. Symbole donc de la continuité par rapport à l'Empire romain, symbole du christianisme par rapport donc à Saint-Louis, à Saint-Augustin. C'est remarquable cette importance du symbole dans la culture.
Oui, et pas seulement d'ailleurs de la vigne pour les bars aussi, les débits de boissons. Ils sont implantés dans les endroits les plus stratégiques, dans une ville les plus visibles. Par exemple, pour la Médina de Tunis, il y a des photos du début du siècle. Pour ceux qui connaissent Tunis, c'est la porte de France, donc l'entrée principale de la Médina. À gauche, il y a un bar, à droite, il y a un autre bar. Et pareil pour la Médina de Sousse, que l'entrée de la Médina de Sousse, c'est un immense bar façon un peu brasserie parisienne du 19e siècle. On n'en avait pas besoin, enfin pas à cet endroit-là nécessairement, mais c'est une manière de montrer qu'on domine les gens.
Oui, c'est ça. On va faire encore une petite pause, pause musicale, avec une chanson qui a fait débat pour son titre. On va d'abord l'écouter, on en dira 2 mois après. Donc voilà, alors on vient d'entendre une musique, une chanson qui s'appelle L'Homo L'Homo, et on a eu une petite discussion avec notre invité à propos de cette chanson.
Ouais, parce que bon, je suis censé être arabisant et je comprenais pas le titre, à part la référence à une marque de lessive bien connue en Tunisie. Et en fait, je me suis renseigné auprès d'un ami tunisien, le titre ne veut strictement rien dire.
Voilà, donc on s'est décidé, on a dit que finalement on pouvait le traduire tout simplement
par Zaï 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 Zaï.
Et ben voilà, hein, donc comme ça c'est clair, ça veut dire Zaï Zaï et puis c'est tout.
Alors ça parle pas trop d'alcool, apparemment c'est un monsieur qui n'aime pas sa belle-mère mais qui aime beaucoup sa femme, mais bon, peut-être qu'il n'aime pas sa belle-mère pour des questions liées à l'alcool, mais...
Ah, c'est ça. Alors, la question, c'est de savoir si c'est elle qui boit ou si c'est lui.
Exact, exact. Bon, on avait une autre chanson, mais malheureusement, qui n'est pas passée.
Hein, qui était très chouette, mais malheureusement, l'enregistrement qu'on avait n'était pas audible, et donc on ne vous l'a pas mise. Voilà. On est bien triste. Alors, revenons à nos questionnements. Quelles sont donc, au moment de la colonisation, quelles sont les conditions d'installation, justement, de ce vignoble ? Les gens, la terre, la production, voilà, faire un petit peu le point là-dessus.
Bon, quand on parle du vignoble tunisien, il faut bien se rendre compte que c'est quand même un vignoble à deux vitesses, ou à... plus que de vitesse, avec beaucoup d'inégalités. Il y a énormément de petits viticulteurs qui ont moins de 5-10 hectares, qui sont souvent des Italiens, et qui ont immigré, notamment de Sicile, pour des questions économiques qui ne sont pas très riches. Et qui vont alimenter beaucoup, eux, le marché tunisien. Parce qu'ils n'ont pas accès au réseau qui permet de diffuser en France le fameux vin qui manque à la France, le fameux vin qui fait suite à la crise du phylloxéra. Et puis, à côté de ça, il y a certaines grandes figures qui, eux, ont des vignobles beaucoup plus proches de Tunis, qui sont souvent, dans le même temps, des hommes politiques, souvent, dans le même temps, des responsables syndicaux, et qui, parmi ces sortes de big men, hein, pour reprendre l'expression d'un politologue qui travaille sur la Tunisie inconnue, vont essayer de mesurer la domination française sur la Tunisie, notamment en ayant du vignoble. Donc c'est un vignoble qui augmente continuellement tout au long du protectorat, sauf à un moment donné dans la crise des années 30, qui est assez dur pour la Tunisie, et notamment en termes viticoles, il y a le retour aussi de la maladie, qui fait que là, il y a un coup d'arrêt pour le vignoble.
D'accord. Et donc, cette production, on a une idée de la production du vin, de la progression de la production du vin dans cette première période jusqu'à la Première Guerre mondiale?
Bon, oui, ça met du temps à se lancer. Donc, les Français arrivent en Tunisie en 1881, enfin, colonisent officiellement. Il y a vraiment une augmentation de la production uniquement à partir de la deuxième moitié des années 1890, 1895, et jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui, en fait, correspond aussi à des vagues d'immigration française vers la Tunisie. Le nombre de Français par rapport à la population tunisienne augmente beaucoup à partir de la deuxième moitié des années 1890, et donc on a plus de main-d'œuvre aussi, même si la plupart des gens qui travaillent dans les champs sont des Tunisiens, mais en tout cas on a plus de main-d'œuvre pour encadrer, ne serait-ce que ces Tunisiens, et donc c'est plutôt vers la toute fin du siècle que ça augmente.
D'accord, donc on a la mise en place de ces grandes propriétés, de ces grandes productions, hein, sur des terres qui sont peut-être pas toujours adaptées d'ailleurs, si ?
Non, en fait, c'est quand même... autant dans le budget de la Tunisie, même si c'est un peu exagéré souvent par les administrateurs, c'est quand même un produit important de produire le vin, mais pour la vie quotidienne, mine de rien, c'est quand même pas un produit de première nécessité. Donc on réserve les meilleures terres pour d'autres produits, et notamment les produits qui sont liés aux céréales. Le fait de produire du pain, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sensible, en vrai, politiquement, que de produire du vin. Et donc, on va mettre du vin sur les endroits, les terres les plus pauvres, qui sont aussi les terres où il va y avoir le plus de spéculation, avec des banques qui viennent de France, par exemple, qui investissent pas mal le champ viticole pour pouvoir ensuite se faire de l'argent, revendre des terres, etc. Donc, les trois grands foyers de production de vin, c'est le Cabon, qui est pas très loin des côtes siciliennes, la région de Tunis, pour pouvoir être exporté vers Tunis, et la région de Bizerte, aussi en vue d'exportation, et puis parce qu'il y a quand même pas mal de militaires qui sont basés à Bizerte.
Oui, d'accord. Donc c'est plutôt le nord de la Tunisie. Donc ça entraîne forcément des modifications de paysage.
Oui, bien sûr, qui sont aussi donc des symboles de la colonisation française en Tunisie, qui fabriquent aussi des différenciations dans les imaginaires entre le nord et le sud de la Tunisie, par exemple, et qui vont entraîner un certain nombre de louanges de la colonisation, comme le symbole d'une colonisation réussie. C'est une colonisation où on a planté des vignes.
Voilà, oui, d'accord. Et donc, on pourrait dire, donc, compte tenu de la géographie, c'est que le nord, c'est réussi, le sud, un peu moins.
Oui,
puisque
oui.
Ça reste très traditionnel, le sud.
Il y a un peu cette idée-là, et puis le sud est aussi une région qui semble moins contrôlée, du coup, par les colonisateurs français.
Oui, bien sûr. Alors, donc, on arrive bien sûr à la Première Guerre mondiale, à la Grande Guerre. Avec une augmentation de la consommation, je pense, en France, du vin lié à la guerre, etc. Et donc, au-delà de cette Première Guerre mondiale, on va donc avoir une période de l'entre-deux-guerres très particulière, qui est marquée par des événements qui sont assez contradictoires.
Oui, en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois une démocratisation de l'accès à l'alcool, c'est-à-dire que l'alcool coûte de moins en moins cher. Pourquoi ? Parce que notamment, comme je vous l'ai dit, en France, à partir du début du XXe siècle, on a de nouveau suffisamment de vin pour se passer, en gros, des vins tunisiens. Et donc, il y a beaucoup de vins tunisiens qui restent sur place. Le marché métropolitain, c'est un peu fermé. Et donc, comme il y a plus de vins sur place, le prix de la bouteille diminue. J'avais calculé qui diminuait de 50% pour un ouvrier agricole entre le début du XXe siècle et l'entre-deux-guerres.
Ah oui, c'est énorme.
Et c'est énorme, et donc du coup, effectivement, quand on voit les statistiques globales, la consommation par habitant augmente. En tout cas, de vin, de bière également, même si la bière c'est un peu plus tardif. Et dans le même temps, il y a une vague de prohibition, qui est à la fois liée sans doute à cette augmentation, de consommation, qui est aussi lié à d'autres phénomènes comme l'urbanisation. Il y a d'autres activités qui sont davantage réprimées ou contrôlées, des activités liées à la prostitution notamment. Et puis il y a aussi un phénomène mondial, phénomène de prohibition. Voilà, les années 20 sont les années de la prohibition, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde. Sans compter que c'est pour l'Empire colonial français aussi la décennie où on contrôle le mieux l'Empire. 1931, qui est l'apogée avec l'exposition coloniale de Vincennes, est censé être le point d'orgue de la colonisation française en Tunisie. Donc il y a quelque chose qui se joue dans les années 20. Pas seulement d'ailleurs pour l'alcool, mais pour plein d'autres phénomènes autour de la colonisation française.
Oui, c'est aussi en 1930, la célébration en grande pompe du centenaire de la colonisation de l'Algérie.
Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que cette célébration en tant que telle, quand on rentre dans le stand de l'Algérie à l'exposition universelle de Vincennes, qu'est-ce qu'on voit ? La première chose qu'on voit, c'est une énorme fontaine de vin qui symbolise la réussite française en Algérie. Donc, ce n'est pas qu'en Tunisie où vin et colonisation sont censés faire bon ménage à cette période-là.
Ils sont très liés, oui, parce qu'en même temps, c'est le cinquantenaire de l'occupation de la Tunisie. Donc, centenaire de l'occupation de l'Algérie, cinquantenaire de l'occupation de la Tunisie. Il y a une correspondance des anniversaires et du calendrier qui est quand même assez, assez intéressante. Alors, donc, vous parliez tout à l'heure dans la consommation et dans la production, la bière. C'est une production locale, la bière ? Ou c'est de l'importation ?
Alors, oui, en fait, ça coûte pas grand-chose, la bière. Donc, au début, on importe un peu de bière pour les soldats. Quand on voit en fait la carte, en tout cas il y a une corrélation, je ne sais pas s'il y a une causalité, mais je pense, entre les importations de bière et la présence de soldats français en Tunisie, c'est clair. C'est à destination des garnisons. Mais pour les populations locales, alors c'est assez étonnant, parce que aujourd'hui, quand on va en Tunisie, la seule chose qu'on boit, j'allais dire, en tout cas la chose qu'on boit le plus, c'est vraiment la bière. Hein, c'est de l'alcool incontournable en Tunisie. Et à l'époque, ça met du temps à se mettre en route. L'ancêtre de la société nationale qui s'appelle la SBFM désormais, naît en 1925. Donc, quand même, 50 ans après. Ouais. Et bon, à la fois, ça coûte pas grand-chose, mais du coup, c'est pas très intéressant d'exporter la bière. Il n'y a pas une plus-value. Voilà, il vaut mieux la fabriquer sur place. Ça naît aussi à un moment donné où il y a suffisamment d'Européens sur place pour qu'il y ait un certain marché. Et par ailleurs, sans doute que l'habitude de consommer de l'alcool est peut-être plus forte pour les Tunisiens, pour pouvoir aussi avoir un marché plus facilement.
Mmh. Et la consommation de bière, la bière, elle est considérée comme de l'alcool ?
Alors ben non, justement, voilà, c'est une très bonne remarque. Même statistiquement parlant, l'administration fait bière, vin, alcool. Alcool, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en France compris, c'est les liqueurs, en fait, hein, c'est les alcools frais. Ouais. Et bon, justement, il y a toute une ambiguïté autour du vin et surtout de la bière, parce que justement les marques de bière cherchent à dire que c'est une boisson qui est bonne pour la santé, une boisson naturelle, etc. Mais dans le même temps, d'un point de vue, par exemple, des nationalistes tunisiens, d'un point de vue des oulémas, bon, ils considèrent quand même que boire de la bière et du vin, c'est boire une boisson qui est enivrante et qui est donc interdite par la religion. Notamment parce qu'en fait, c'est une boisson française, associée fondamentalement à l'élément européen. Donc, c'est pas seulement boire un alcool, une boisson alcoolisée, c'est aussi boire une boisson qui vient de l'étranger.
Oui, oui, parce qu'en fait, il y a bien eu une consommation d'alcool avant la colonisation, y compris dans la population tunisienne, qui ne faisait peut-être pas l'objet non plus de condamnation particulière. C'est de la production locale, voire domestique.
Il y a une boisson qui est assez connue, qui s'appelle le legmi, voilà. Qui est le vin de palme fermenté, et dont on boit énormément. Alors c'est très difficile de savoir combien on boit de legmi, ça échappe beaucoup aux sources, aux colonisateurs, etc. Mais j'ai fait l'hypothèse dans ma thèse, qu'on buvait à peu près autant de legmi dans le sud de la Tunisie, dans les oasis, qu'on buvait de vin en France. C'est-à-dire à peu près un litre tous les trois jours par personne. Ce qui est assez énorme, et en fait, ça montre bien que les différentes boissons, comme les différents vêtements, comme finalement tout ce qui a lié à la culture matérielle, soit un moyen de cristalliser les identités, de séparer les gens, de séparer les sphères coloniales ou non, riches ou pauvres, etc. Et là, en l'occurrence, pour les différents alcools, le vin, en tout cas la bière et les alcools forts, c'est un moyen de montrer qui a le droit de boire de l'alcool, ce sont les Européens, qui n'y a pas droit, ce sont les Tunisiens.
Oui, bien sûr. Les autorités françaises prennent des mesures particulières.
Effectivement, c'est sur ordre des autorités françaises, à partir de la Première Guerre mondiale, qu'on interdit de vendre ou de donner de l'alcool à des Tunisiens musulmans. Alors, à l'époque, c'est une manière, sans doute, de s'attirer les bonnes grâces des élites. On est au moment de la Première Guerre mondiale, on a peur des révoltes. Et donc, on va essayer de montrer qu'on respecte les musulmans. On organise, par exemple, des pèlerinages à la Mecque, on interdit aux Européens de rentrer dans les mosquées, et par ailleurs, on se dit qu'on va les empêcher, comme on est dans un protectorat, on les protège aussi, consommer de l'alcool. Donc, c'est avant tout une volonté des Européens. Alors, il y a des lobbies économiques qui sont contre, mais la plupart des Européens, la plupart des colonisateurs français veulent imposer cette idée-là de faire en sorte que les Tunisiens musulmans ne consomment pas d'alcool.
Oui, d'accord. Et donc, en même temps qu'il y a une sorte de je vais dire une ségrégation géographique que vous évoquiez tout à l'heure, il y a cette ségrégation légale entre les deux populations bien claire et bien nette à propos de la consommation d'alcool.
Et par ailleurs, cette ségrégation, cette interdiction n'est pas appliquée aux Juifs. Ce qui est un grand classique de la colonisation, notamment en Afrique du Nord, qui consiste à faire des lois différentes selon les communautés, pour faire en sorte que les communautés n'aient pas les mêmes intérêts entre elles et soient divisées entre elles. Et donc, c'est une manière que les Juifs et les musulmans ne se regroupent pas sous la bannière de Tunisiens, puisqu'ils ne seraient pas considérés de la même manière par les colonisateurs français.
Oui, c'est ça. Ça s'est également produit en Algérie, Monsieur. Cette distinction. On va faire une petite pause musicale. La 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 la
bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille, veux te quitter, veux m'en aller, veux recommencer ma vie. J'ai traîné dans tous les cafés, j'ai fait la manche bien des soins, les temps sont durs, je suis même pas sûr de me payer un coup à boire. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille, veux te quitter, veux m'en aller, veux recommencer ma vie. La 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 la. Mal à la tête et les punaises me guettent, mais que faire dans un cas pareil? Je demande souvent aux passants de me payer une bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Veux te quitter, veux m'en aller, veux recommencer ma vie. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dans la nuit j'écoute la pluie, un journal autour des oreilles, mon vieux complet tout mouillé, et j'ai toujours ma bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu les laisser tranquilles, veux te quitter, veux m'en aller, veux recommencer ma vie. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Chacun fait ce qui lui plaît dans le monde sans soleil. Moi je m'en fous, je n'ai rien du tout, rien qu'une jolie bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille, veux te quitter, veux m'en aller, veux recommencer ma vie. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Zinzine, vous écoutez l'émission Mare Nostrum. Je suis en compagnie de Nessim Snayen et nous parlons donc de l'alcool dans la Tunisie coloniale. Donc, troisième période de cette relation entre la colonie tunisienne et l'alcool, ce sont les deux décennies avant l'indépendance, donc l'indépendance en 1956. Bien sûr, au départ, il y a le régime de Vichy, les mesures qui sont prises à ce moment-là, qui sont dans la continuité peut-être de ce qui s'est passé avant.
Non, à la limite, pas nécessairement. C'est-à-dire que moi, j'étais assez étonné quand j'ai fait ma thèse. Je me suis aperçu qu'il n'y a pas beaucoup de sources sur les 20-30 premières années. Je me dis, bon, c'est très bien, ça veut dire que la France n'investit pas beaucoup en Tunisie, ça a du sens. Puis énormément de sources, notamment prohibitives, sur les 30 années suivantes, donc jusqu'au milieu des années 30, très bien. Et puis je m'aperçois ensuite qu'il y a quasiment aucune source sur des gens qui seraient sous l'ivresse publique, il y a très peu de lois, etc., sur les 20 dernières années du protectorat. Comme si la chose s'était banalisée, au fond. Il n'y avait plus besoin de rappeler dans les journaux qu'il est interdit de boire du vin, parce que le fait de faire des faits divers sur des ivrognes serait particulièrement banal. Sauf pendant la période de Vichy. Et le régime de Vichy, en fait, c'est un régime qui s'est construit aussi en métropole sur la base de vouloir refonder quand même une nation, et un certain nombre de choses expliqueraient la défaite française, dont l'alcoolisme. Le fait de vouloir rebâtir une société sur certains fondements, y compris de sobriété, est quelque chose qu'on observe beaucoup en métropole. Et on exporte ce modèle-là en Tunisie, notamment parce que, enfin, non seulement pour des questions idéologiques, mais aussi pour des questions pragmatiques. Le régime de Vichy, c'est un nouveau régime. Il faut qu'il s'attire des alliés. Et la première chose à laquelle on pense, c'est on va essayer de s'attirer des alliés et des élites tunisiennes en leur montrant qu'on respecte leurs traditions et en leur montrant qu'on veut interdire aux gens de boire de l'alcool. Donc il y a une explosion de lois durant cette période, qui dure 2 ans, et puis ensuite on retrouve cette sorte de banalité, en tout cas cette absence d'intérêt vis-à-vis de l'alcool et de l'ivresse publique, en comparaison avec la période de la Première Guerre mondiale et des années 20, qui, elle, avait été très prolifique.
Mmh. Et donc, il y a tout un panel de lois qui sont mises en place par Vichy. On en fait quoi, la libération ?
Bon, il y a assez peu de lois qui sont supprimées en vérité à la libération, et même beaucoup de lois sont gardées, y compris durant les années qui suivent les indépendances. La fameuse loi qui interdit de boire de l'alcool, de servir de l'alcool pour les Tunisiens musulmans est encore légale, enfin est encore pas forcément appliquée, mais en tout cas n'a pas été supprimée en Tunisie. Donc, l'administration conserve ces lois-là sans forcément les appliquer. Sauf pour les publicités concernant l'alcool. Là, celles-ci sont partiellement rétablies pour autoriser, par exemple, les journaux à diffuser des publicités sur l'alcool. Partiellement rétablies pour certains alcools. Là, c'est sans doute sous la pression de lobbies économiques.
Et oui, bien sûr. Et donc, l'indépendance qui arrive, est-ce que ça change grand-chose ? Pas vraiment.
Bon, légalement parlant, ça ne change pas grand-chose.
Voilà,
après,
c'est ça.
La chose qui change, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui partent. Et beaucoup de Français qui partent, notamment après la nationalisation des terres tunisiennes qui n'intervient pas en 1956, l'année de l'indépendance, mais en 1964. Le fait qu'il y ait beaucoup de viticulteurs qui partent, et de Français plus généralement, d'Européens plus généralement, ce sont des fabricants d'alcool et des consommateurs d'alcool qui sont... Et c'est peut-être là que réside le changement entre la période coloniale et la période post-indépendante, c'est dans la perte d'une sorte de marché en partie pour les buveurs.
Oui, cette nationalisation des terres, elle aboutit à l'abandon. De terres viticoles.
Alors pas totalement. Un abandon qui est aussi relatif, puisque il y a jamais une suppression totale de la production de vin, et celle-ci est en nette hausse depuis quelques années. Il y a jamais eu une totale suppression, notamment parce que c'était quand même une économie qui était liée au tourisme. Le tourisme a été une des économies pour la Tunisie post-indépendante, et on produisait aussi du vin, comme d'ailleurs on produisait du porc, hein, pour nourrir des touristes. Et ces dernières années, il y a un marché mondial aussi qui s'est créé. Alors les vins tunisiens ne sont pas forcément très compétitifs par rapport à d'autres vins, et pas très réputés par rapport à d'autres vins, mais n'empêche que c'est quand même ces 20-30 dernières années, de nouveau, une économie florissante en Tunisie.
Oui, je lisais d'ailleurs que récemment, récemment, depuis quelques années, il y avait un effort important dans la production de vin en Tunisie. Et en particulier, alors ça me renvoie justement, je vous le disais tout à l'heure, à cet invité qui avait travaillé sur le vin en Provence et qui a démontré que la production de vin en Provence était maintenant dominée par le vin rosé, et que la Provence était devenue le premier producteur mondial de vin rosé. Et j'ai vu que la Tunisie était en train d'embrayer sur cette production de vin rosé, qui apparemment est un appel des consommateurs dans le monde entier. Le vin rosé, ça apparaît comme le vin du soleil.
Mais c'est plus facile pour des questions propres à la viticulture, que je ne saurais pas forcément beaucoup détailler, mais c'est plus facile de produire du vin rouge quand il fait sous des latitudes où il fait assez chaud, que du vin rosé ou du vin blanc surtout. Donc la fragilité du produit est beaucoup plus forte pour le vin rosé et le vin blanc. Je sais qu'en Tunisie, on essaye de produire, alors pour le vin rosé, j'étais pas forcément au courant, mais on essaie de produire de plus en plus de vin blanc pour répondre justement à un marché international. Mais le vin qu'on consomme en général en Tunisie, jusqu'aux dernières années, c'était quand même plutôt du vin rouge.
Oui. Oui, c'est des vins rouges qui sont un peu l'équivalent de ce qu'il y a dans tout le Maghreb, en Algérie, au Maroc, des vins assez forts, assez bon, avec beaucoup de goût, avec beaucoup d'ampleur, avec
Le fait d'avoir des productions comme ça, des châteaux qu'on essaye de faire de manière réputée, ne date pas d'il y a 20-30 ans de date. En réalité, à peu près du début des années 30, à un moment donné, ou même en France, avec la création des AOC, par exemple, on a voulu mettre en valeur des vins un peu fins, un peu distingués. C'est à ce moment-là que naît aussi la distinction par rapport au vin, la distinction à l'époque contemporaine. Et on observe la même chose pour la Tunisie, même si 95% du vin reste de la basse production qui est destinée à rehausser en alcool des vins du sud de la France. Mais les premiers châteaux, les muscats de Carthage, etc., naissent dans les années 30.
Oui, c'est ça, des productions plutôt qui vont vers des productions de qualité.
Avec l'idée, là aussi, que ça symbolise la colonisation. J'ai des photos de foires, par exemple, foires coloniales, foires internationales, à la fin de la colonisation, où la Tunisie a un stand, où on expose les produits tunisiens, et c'est pas les dattes hein, ou les tapis qu'on expose, c'est les bouteilles de vin. Enfin, en tout cas, de manière beaucoup plus évidente que, je sais pas, les oranges du Cap Bon, etc. Parce que, bon, c'est un produit qui plaît aussi aux consommateurs internationaux.
Ah oui, bien sûr. Alors, donc, chemin faisant, on approche pas encore de la fin, mais enfin, il nous reste quelques minutes. Et nous arrivons donc, puisqu'on parlait de la Tunisie aujourd'hui, eh bien, on va parler de votre orientation, dans l'orientation de vos recherches aujourd'hui. Et en particulier, j'aimerais que vous donniez quelques informations sur cette direction prise par vos recherches et pas seulement les vôtres, d'ailleurs un ensemble de chercheurs qui vont travailler un petit peu sur l'alimentation dans tout le bassin méditerranéen. Et vous, en particulier, ce qui vous a intéressé pour l'instant, là, c'était la comparaison entre Tunis et Marseille.
Oui, Tunis, Marseille, même je voudrais bien faire d'autres terrains, je pense à Naples par exemple en Italie, parce que justement je veux essayer de m'intéresser à ce qui fait colonial dans la façon dont on gère l'alimentation. L'alcool, c'est un premier pas, mais finalement, d'autres choses dont on gère le marché, dont on gère l'approvisionnement en nourriture, le contrôle de la qualité des produits, de savoir qui fixe les lois, etc., à une époque qui est l'époque contemporaine. Et la spécificité de l'époque contemporaine, il y en a plusieurs, mais l'une d'entre elles, c'est que on est à une époque où on ne meurt plus de faim, globalement, en Méditerranée. Toute la façon dont les villes dont les territoires ont été quand même conçus, ont été administrés depuis plusieurs centaines d'années, jusque en gros aux années 1800, c'était de gérer des épisodes de famine, les épisodes où les gens meurent de faim. Et les famines disparaissent à l'époque contemporaine. Et je voudrais savoir qu'est-ce que ça a comme conséquence. Comment on gère une ville d'un point de vue alimentaire, le contrôle de l'alimentation, des approvisionnements, des produits, à une époque où on ne meurt plus de faim. Est-ce que c'est si différent que ça des périodes précédentes? Et pour ça, on ne meurt plus de faim dans le sud de la France, en Italie et aussi au nord de l'Afrique. Donc, je voudrais intégrer ma réflexion sur la Tunisie coloniale et sur un produit qui était l'alcool dans la Tunisie coloniale à une réflexion plus générale sur la façon dont on gère l'alimentation dans cette région du monde à l'époque contemporaine.
Oui, quand on passe donc d'une période de pénurie à une période plutôt opulente, opulente.
Et par ailleurs, ce qui change aussi avec l'époque contemporaine, c'est que il y a de plus en plus d'acteurs et de plus en plus d'acteurs différents qui gèrent l'alimentation. Par exemple, il y a l'arrivée des grands magasins dans les villes. Il y a l'arrivée des multinationales. Monoprix, par exemple, arrive dans l'entre-deux-guerres en France, mais sous la période coloniale en Tunisie. Et du coup, les autorités politiques, elles ont un peu moins de pouvoir qu'avant. Enfin, en tout cas, comment elles gèrent l'arrivée d'acteurs qui s'approvisionnent ailleurs, où il est quand même un peu plus difficile de savoir, il n'y a plus d'octroi, c'est-à-dire il n'y a plus de barrières douanières qui permet de savoir quels sont les aliments qui arrivent dans la ville, quels sont les aliments qu'on doit stocker, etc. Cette multiplication des acteurs m'intéresse aussi, que ce soit pour la Tunisie, la France ou d'autres pays de la Méditerranée, pour savoir aussi comment est géré ce rapport entre les populations et les gens qui les gouvernent à un moment donné où il y a plein d'acteurs différents qui interviennent dans l'alimentation.
Alors, pour en revenir juste une petite minute à votre axe Tunis-Marseille, est-ce que la gestion de l'alcool, je crois que c'est une des questions que vous posiez, est-ce que la gestion de l'alcool, de l'alcoolisme, de l'ivresse, etc., est fondamentalement différente ou à peu près la même entre Tunis et Marseille ?
Bon, je suis encore en phase de ces recherches. Il y a quand même une réalité différente, qui est la réalité coloniale, qui est notamment cette idée dans ce moment de la colonisation où on fait une prohibition pour la moitié de la population. Enfin, pas la moitié de la population. Si, pour Tunis, c'est à peu près la moitié de la population. Mais pour, évidemment, la Tunisie coloniale, c'est plutôt 90% de la population qui est censée ne pas boire de vin. Mais par ailleurs, il y a quand même un certain nombre de choses en commun, notamment cette réflexion à partir des années 20 sur le contrôle social, sur le fait de réprimer davantage notamment certains quartiers. Ce que j'observe, c'est que à Marseille, par exemple, il y a un certain nombre de quartiers autour du port qui concentrent un certain nombre de débits de boissons. Et pour le moment, ce que j'observe, c'est aussi que la répression se concentre sur ces quartiers-là. Donc, il y a des points communs en termes de gestion du contrôle social, mais malgré tout, une prohibition qui me semble quand même plus marquée dans un contexte colonial que dans la France des années 20.
Eh bien, écoutez, je vous remercie parce qu'on arrive presque au terme de notre entretien. Donc, je Merci rappelle vous. Que vous êtes donc chercheur, docteur en histoire contemporaine, que vous avez travaillé sur l'alcool dans la Tunisie coloniale, et que ben, vous poursuivez vos recherches, et donc c'est à la poursuite de ces recherches font que vraisemblablement vous reviendrez nous voir un de ces jours.
Mais avec plaisir, si je suis invité seulement.
Mais vous serez certainement invité.
Il y aura alors, du vin blanc ce jour-là.
Ben voilà, il y aura du vin blanc. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous écouter le jeudi à 12h30, et le samedi à 15h, ou à 19h en alternance. Sur 88.1, sur le site radiozinzinex.org, et que vous pouvez également sur ce même site réécouter les émissions dans la page Les émissions Mare Nostrum. Vous avez toutes les émissions depuis le début de 2018, pas depuis le début de l'émission, mais depuis le début de 2018. Vous y trouvez également un lien vers une messagerie, et vous trouvez également un lien vers notre page Facebook. Mare Nostrum, une émission de Radio Zinzinex, où sont annoncées les émissions, leur diffusion et leur rediffusion, et quelques informations complémentaires sur le thème des émissions, comme les bouquins qui sont publiés par nos invités, et des choses comme ça, où on reprend des musiques qu'on a utilisées pendant l'émission. Et donc, comme vous proposiez que pour notre prochaine émission, ce soit le vin blanc, et on va écouter, pour terminer, le petit vin blanc, bien sûr.
Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agiles sur l'onde tranquille les barques dociles aux bras des amants, de fraîches guinguettes, des filles bien faites, il y a des chansonnettes et il y a du vin blanc, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés,